Chapitre 6e. Liane fut atterrée. Ainsi il était parti. Parti au lendemain du jour où elle lui avait avoué si sincèrement qu'elle était à lui. Parti sans un mot, sans un souvenir. Alors elle espéra une lettre qui ne vint pas. Quand il était aux zones, Guibray écrivait à la marquise pour un oui ou pour un non. Et cette fois rien, pas une ligne pour annoncer son départ ou son retour. Non seulement il ne l'aimait pas, mais encore, il ne devinait pas combien il était aimé, car elle ne voulait pas supposer qu'il l'eût deviné. Dans ce cas, l'insouciance du jeune homme devenait de la méchanceté, et elle ne le croyait pas méchant, mais seulement profondément égoïste et léger. D'ailleurs, elle ne passait pas ses longues heures de tristesse à ressasser ses impressions. Elle ne les analysait pas. Elle aimait, voilà tout. Et elle se répétait avec une douloureuse franchise. « Je l'aime, je l'aime. Et pourquoi ?» Pourquoi, en effet, aimait-elle le vicomte, si absolument différent d'elle et de tout ce qui habituellement lui plaisait? Elle n'en savait rien, en vérité. Cet amour étrange était venu comme une maladie prise on ne sait où, et d'autant plus terrible qu'elle est inexplicable. Souvent, elle pensait à la prédiction de M. de Mons. « Elle viendra, la passionnette, » avait-il dit, « et peut-être étrangement banale, sans que vous sachiez pourquoi ni comment. Vous vous éprendrez du premier venu, qui, probablement, ne sera capable ni de vous comprendre, ni même de vous aimer. » Les jours se traînèrent, horriblement longs. Madame de Gueldre, sans être précisément malade, pâlissait et devenait irritable et nerveuse. Fauché, qui l'avait d'abord taquinée sur son changement de caractère, finit par s'apercevoir qu'elle souffrait. Curieux comme une vieille fille, ou mieux comme un vieux garçon, il chercha à connaître la cause de cette souffrance. Méliane resta impénétrable, affirmant qu'elle n'avait jamais été mieux portante et plus heureuse. Alors il tâcha de la distraire ou de l'ennuyer même au besoin, pour l'empêcher de penser. En bon égoïste, il n'aimait pas les tristes, et la vue de ce petit visage aminci et sans sourire l'offusquait. Il digérait moins bien quand les repas n'étaient pas égayés par le rire clair de la marquise. Très observateur et très perspicace, il avait cru remarquer que le changement de Liane datait du départ de M. de Guibray. Mais il ne s'était pas un instant arrêté à ce soupçon, pensant « ce n'est pas possible. Ce garçon-là, c'est tout le contraire de son type. » « Je viens de voir le père Jardane, » dit un matin le marquis en se mettant à table. « Il est furieux contre son neveu. »« Pourquoi ? Il fait trop la noce ?» demanda Fauché, toujours bienveillant. « Non, ou du moins je n'en sais rien, il ne me l'a pas dit. Le pauvre bonhomme se plaint seulement de ce que Guibray le laisse tout seul aux zones, où il s'ennuie à crier. Je crois que quand il sera revenu, s'il revient jamais, il sera à la tâche pour quelque temps, ce bon Guibray. » Jacques demanda. « Mais je ne vois pas trop de quel droit l'oncle Jardane peut empêcher Guibray, qui a 35 ans, d'aller où bon lui semble. »« Tu as raison. Il ne peut pas l'empêcher d'aller où bon lui semble, mais il peut lui couper les vivres. »« Et alors, plus de noces, » observa Fauché, qui tenait à son idée. Cette conversation mettait Madame de Gueldre au supplice. Non pas qu'elle lui apprît rien qu'elle ne sût déjà, mais parce qu'elle se sentait troublée chaque fois qu'on parlait de Guibray devant elle, et qu'elle s'imaginait que tout le monde s'apercevait de ce trouble. Aujourd'hui, elle désespérait même de jamais revoir Jean. Elle ne l'attendait plus. Elle avait repris sa vie active, ses longues courses à travers la lande et ses promenades en mer. En rentrant un jour, elle entendit sonner la grosse cloche d'appel. « Patatras, une visite » pensa-t-elle. « Si je ne rentrais pas. » Mais déjà un domestique accourait au-devant d'elle. Agacée, elle demanda « Qu'est-ce que c'est ?» C'est monsieur le vicomte de Guibray qui attend madame la marquise. » Elle s'arrêta court, les jambes molles et le cœur serré, et s'asseyant brusquement sur le talus gazonné. « Dites que je viens, je me repose un instant. » Puis, voulant expliquer cette défaillance, « J'ai marché trop vite en entendant la cloche. » Elle revint lentement, comprenant bien qu'elle allait à la rencontre de nouvelles tristesses, mais ne songeant pas à les écarter d'elle pendant qu'il en était encore temps. Monsieur de Guibray l'attendait dans un petit salon. Souriant et correct, il vint à sa rencontre et lui baisant galamment la main. « Savez-vous, marquise, qu'il y a très longtemps que je ne vous ai vue ?» Elle répondit. « Il y a 26 jours. Le temps m'a paru très long. Et un mois ?» murmura-t-elle, sentant les larmes remplir ses yeux. Toujours souriant, il continua. À présent, me voilà revenu pour tout de bon. Mon oncle ne veut plus me lâcher. C'est moi qui vais bientôt partir. » Monsieur de Guibray fit un bond et son visage se rembrunit. Il était évident que ce départ contrariait tous ses projets. Il répondit « Partir ? Dans 2 mois ?»« Non, dans 15 jours ou 3 semaines. Mais qu'est-ce que vous ferez à Paris ? Il n'y a personne. Ça m'est bien égal. C'est vous qui voulez partir ? Oh, pas du tout. C'est Henri qui fixe les dates. Nous partons d'ailleurs toujours à la même époque. » Il la regarda. « Vous êtes jolie. » Elle haussa les épaules. « On a dû vous le dire bien souvent. » Voyant qu'elle ne répondait pas, il reprit. « Et cela doit vous être bien indifférent que moi, je vous le dise. » Elle le regarda à son tour, se demandant. « S'il croit que cela m'est indifférent, quelle idée a-t-il donc de moi ?» Et elle dit. « Non, cela ne m'est pas indifférent. » Il lui prit la main. « C'est précisément, si vous êtes sincère, ce qui m'étonne. Vous, si adulé, si remarquable. » « Aïe, lui aussi, » murmura involontairement la marquise. « Qu'est-ce que vous dites ?»«
Rien, je vous écoute. »
« Eh bien, je me demande comment il est possible que vous, si lancé, si admiré, vous soyez gentil pour moi comme vous l'êtes. Car enfin, vous avez dû... » Comme il s'arrêtait, Liane pensa tristement. « Il me croit une femme qui se distrait. » Et il cherche un moyen d'exprimer poliment son idée. Monsieur de Guibray continua. « Oui, je vous suis très reconnaissant, je vous assure. Vous êtes charmante. Et si simple. Parce que je suis sans prétention. Est-ce là ce que vous voulez dire? Que vous êtes drôle? »
« Oui, »
dit Madame de Gueldre en riant d'un rire qui sonnait un peu faux.
« Je suis drôle, c'est mon emploi, paraît-il. »
Jean se pencha vers elle et la prit dans ses bras. Elle s'abandonna à lui, heureuse, tandis qu'il la regardait, répétant « Vous avez une bouche adorable. Jamais je n'ai vu de bouche comme la vôtre. » Elle se serrait contre lui, engourdie par ses caresses, attendant toujours un mot vraiment bon et tendre, espérant qu'il lui dirait peut-être enfin qu'il l'aimait. Il ne lui dit pas qu'il l'aimait, mais il s'écria tout à coup « C'est horrible de nous voir qu'ici, entre toutes ces portes et toutes ces fenêtres. Je crois toujours que quelqu'un entre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de vous voir autrement ? Je ferai ce que vous voudrez. » « C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui est extraordinaire ? La façon dont vous êtes avec moi. Parce que je crois que si, dans ce moment-ci, je vous demandais d'aller à Carpentras, vous iriez. Oui. Eh bien, c'est cela qui est inouï. Mais non, puisque je vous aime.
Vous m'aimez.
Pourquoi ? Pourquoi ? » Liane s'était si souvent posée elle-même cette question, sans y pouvoir répondre, qu'elle eut sur les lèvres cette réplique de Gavroche. « Je me le demande. » Mais s'arrêtant, elle dit « Ça, je n'en sais rien. Je vous aime parce que je vous aime. Je n'explique pas, je constate.
Mais cela est...
Ah oui, certes. » Il regarda sa montre. « Il faut que je rentre aux zones. Mon oncle m'attendrait. » Elle demanda timidement. « Est-ce que je vous verrai demain ? » ?»«
Non, pas demain. Nous avons du monde. »
Quand il fut parti, Madame de Gueldre, la tête plongée dans les coussins du divan, sanglota nerveusement. Le lendemain, Liane voulait parler à un douanier qu'elle avait fait commander à ses chefs. Il demeurait au bourg de Baden. Quand elle arriva, l'homme était encore de quart et elle l'attendit pendant 2 heures. Lorsqu'elle partit, le jour tombait. Elle marchait vite sur le sol élastique de la lande. Tout à coup, en passant devant le chemin des zones, elle s'arrêta, entendant une voix qui disait avec étonnement « Comment ? C'est vous, marquise ?» Et monsieur de Guibray, traversant une haie de genêts, demanda « Où donc courez-vous si vite, la nuit ? Car il va faire nuit dans 5 minutes. Je viens de Baden et je rentre pour dîner. Vous avez bien le temps, vous ne dînez qu'à 8 heures. Et il est ? » Le vicomte tira sa montre. 6h30. Voulez-vous me permettre de vous accompagner ?
Oui, je vous le permets.
Prenez garde, il y a un trou là, à gauche. C'est qu'on n'y voit ni ciel ni terre. La nuit était venue très vite. Jean marchait tout près de Madame de Gueldre, la frôlant à chaque pas, et elle se sentait heureuse d'être seule avec lui, perdue dans cette grande plaine sombre où apparaissaient, comme de grosses boules plus sombres encore, les touffes de genêts et d'ajoncs. Au loin, on distinguait vaguement la nappe grise de la mer, se détachant en clair sur l'horizon d'un noir d'encre. « C'est très beau, » dit Liane, qui s'arrêta. « N'est-ce pas ? » fit monsieur de Guibray. « Moi, je trouve ça superbe. Seulement, je n'ose pas le dire. On se moquerait de moi. »
elle eut envie de lui sauter au cou. C'était, depuis qu'elle le connaissait, la première fois qu'elle le devinait vraiment sincère, montrant en même temps le côté élevé et le côté mesquin de sa nature. Son admiration du beau, arrêtée et refoulée par la crainte folle du « qu'en dira-t-on ? » Machinalement, Liane répéta « Oh oui, c'est beau !» De son bras, le vicomte avait entouré les épaules de Madame de Gueldre, et il l'amenait ainsi contre lui, toute vibrante d'émotion et d'amour. Brisée, elle s'assit au bord du chemin, et il s'assit près d'elle, l'appuyant sur son cœur. Et ils restèrent là, tous deux, la nuit, à 1 kilomètre de toute habitation, près d'une lande, où pas un breton ne se hasarde après le coucher du soleil. Mais un oiseau remua dans les genêts, et brusquement, Guibray se leva, inquiet, nerveux, repoussant Liane et disant « Quelqu'un, voilà quelqu'un, venez, ne restons pas là !» Elle le suivit docilement. Il marcha un instant sans parler, puis tout à coup « Savez-vous que vous me rendriez fat si j'avais des dispositions à le devenir ?» Elle crut qu'enfin il comprenait à quel point elle était à lui, et elle s'en réjouit. Il continua « Pourquoi donc, encore une fois, êtes-vous si gentil pour moi ?» Jamais, jamais je n'oublierai combien vous avez été gentil. » Elle sourit tristement. Gentil? Alors, donner tout son cœur, toute sa vie, tout son être, c'était être gentil? Non, elle s'était réjouie trop tôt. Le malentendu continuait. Il reprit. Vous êtes une adorable femme. Bon, fit-elle découragée, vous n'en savez rien. Vous ne me connaissez pas. Je suis peut-être insupportable, qui sait? Non, c'est impossible. Si j'avais eu l'honneur d'être le mari d'une femme comme vous, je ne lui aurais demandé qu'une chose.
Laquelle ?
Ne pas m'éclabousser.
Des larmes, de colère cette fois, montèrent aux yeux de la marquise.
Éclabousser ? Qu'entendait-il donc par là ?
Alors ? C'était bien vrai, il la prenait pour une femme à aventure. Elle voulait protester, mais elle pensa.
À quoi bon ? Il ne me croirait pas.
Elle s'arrêta, étendant la main à Guibray.
Au revoir. « Je vais vous quitter là, voici la grande route. »
Avant de rentrer, elle baigna son visage à une des fontaines du parc, et elle fit cette remarque.
« J'ai pleuré depuis 2 mois plus que dans tout le reste de ma vie. »
Puis, se moquant d'elle-même, elle ajouta.
« Et je crois que j'ai fini de rire. »